Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors donc ce soir nous accueillons donc Madame Voltrager. Vous pouvez laisser ouvert parce que je crois qu'il y a d'autres parents qui vont. Voilà. Nous accueillons Madame Voltrager, la conseillère de la rectrice sur le thème du harcèlement. Donc pour une conférence destinée aux parents d'élèves et aux élèves de 6e. Merci de vous être déplacés. On va encore attendre, si vous le voulez bien, quelques minutes, puisque j'ai vu encore d'autres parents qui devraient arriver. Juste avant de laisser donc, la parole à Madame Voltrager, pendant les quelques minutes d'attente, Monsieur Schenkiewicz, qui est à l'initiative de cette conférence, va vous présenter le cadre général. Voilà. Donc, Monsieur Karlig s'excuse, il aurait souhaité être présent puisque c'est un thème pour nous prégnant et auquel notre institution nous demande d'attacher une importance particulière. Moi-même, je vais devoir m'absenter, mais en tous les cas, vous êtes entre de bonnes mains avec donc Madame Voltrager et Monsieur Schenkiewicz. Voilà, bonne conférence à vous.
Merci, monsieur le principal, et puis bonne réunion à vous. Voilà, juste en off pour vous faire patienter, juste me présenter. Alors effectivement, je suis conseillère auprès de la rectrice, mais mon cœur de métier, c'est d'être conseillère technique de service social, puisque c'est ma formation. Je suis donc en charge de coordonner un service et un réseau d'assistants de service social sur l'Académie Nancy-Metz, donc les 4 départements, c'est-à-dire à peu près 130 assistants sociaux qui sont soit en faveur des élèves, des personnels ou des étudiants, puisque tout le réseau se fait, voilà, avec des référents, des responsables départementales et puis une coordonnatrice sur les assistantes sociales en faveur des personnels. Voilà, ça c'est une partie de mon travail. Une autre partie, c'est effectivement en tant que conseiller auprès du recteur de travailler sur deux champs, sur le champ des élèves, donc tout ce qui concerne le champ de l'action sociale en faveur des élèves. Ça recouvre beaucoup de choses, dont des politiques sociales. Et dans les politiques sociales, celles que je traite plus facilement, enfin celles qui m'incombent, c'est tout ce qui est relatif à la protection de l'enfance, au partage d'informations à caractère secret, aux violences, à la grande pauvreté. Et puis au harcèlement, je suis en fait nommée par la rectrice comme référente académique non harcèlement, donc sur la région Lorraine. Et je travaille avec 4 référentes, une par département, donc sur le même sujet. Dans ma vie professionnelle, donc le harcèlement, c'est à peu près 10% de mon temps de travail. Sur l'heure, ça vous donne comme ça une vue à peu près pour vous dire que je viens avec une partie de ma casquette. Et actuellement, je suis à peu près à entre 40 et 50% de temps de formation, donc formation que je peux faire comme ça sur site, mais aussi formation où je m'adresse directement au personnel, donc sur les différentes thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. Et les personnels, c'est-à-dire les personnels enseignants, mais aussi les personnels ATSS, administratifs, santé, sociaux, et puis personnel de direction. C'est pour vous dire que ce sujet-là, il est entre autres abordé pour tout le monde, voilà. Et puis ponctuellement aussi, mais je reviendrai dessus dans l'intervention, chargé de formation aussi des ambassadeurs lycéens.
J'en profite pour me présenter également. Donc, Julien Schenkiewicz, conseiller principal d'éducation donc, au sein du collège Homomus. Je vais commencer à présenter le cadre général de l'intervention. Pourquoi nous avons décidé de faire ça? Tout simplement parce que nous sommes dans le cadre de la semaine sur la santé, donc sur la cité scolaire, où il y a énormément d'actions qui sont mises en place donc avec pour thématique la santé et le bien-être de nos élèves. Et dans le cadre également du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, c'est une demande qui nous est faite d'aborder cette thématique du harcèlement. Donc voilà. Ensuite, pour présenter le cadre général, on va partir sur une information générale. Donc tous les cas particuliers ne seront pas abordés tout de suite. Ceci étant, je reste disponible après si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour aborder un cas particulier. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Donc je pense qu'on va, commencer. Ouais.
Alors, je tiens à m'excuser parce que je retrouve ma voix depuis hier, donc elle est un petit peu... Voilà, un peu voilé. Et puis, je vous remercie d'être présent. Je salue aussi les élèves. Un grand merci à vous d'être là et de pouvoir peut-être entendre et nous apporter aussi vos contributions. C'est très important que vous soyez là. Alors, le cadre général, on a commencé à parler de harcèlement en 2011. C'est un rapport qui a été fait, entre autres, par Éric Debarbieu, qui s'intitulait « Refuser l'oppression quotidienne ». La prévention du harcèlement à l'école. Avant cette période-là, on parlait de micro-violence, mais on n'utilisait pas le terme de harcèlement. Par contre, nos amis canadiens ou norvégiens utilisent ce terme-là et travaillent sur ce terme depuis plus de 20, voire 25 ans. Donc je passe sur les différentes campagnes, puisque vous les avez vues, elles sont médiatisées aussi pas mal. Et il y a une circulaire aussi, notamment en août 2013, qui rappelle donc une obligation, qui donne l'obligation de mettre en œuvre des formations et un accompagnement dans le cadre de cette problématique. L'idée étant qu'il faut faire reculer le harcèlement de manière significative à l'école, voire l'éradiquer. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a donc aussi renouvelé cette demande. Sur la diapo que vous avez, je vous ai inséré la fiche que les élèves de ce collège ont fait pour participer au prix non-harcèlement cette année. Donc ils ont été participants, malheureusement pas lauréats, parce qu'on avait beaucoup de candidats. Voilà, mais en tous les cas, une affiche qui dit leur représentation sur le harcèlement et qui plus est anglais-français. Donc merci aussi pour ce travail. Ça sera pour une prochaine année. Alors, voilà mon propos pour ce temps d'échange. Je vous propose je vais intervenir, je vais essayer de défiler mon affaire puisque vous allez sûrement avoir des réponses à certaines questions que vous allez vous poser tout au début et puis ensuite on pourra échanger. Je vais faire une entrée d'abord sur le harcèlement, une forme de violence. Ensuite, j'arriverai à définir ce qu'est le harcèlement et puis les profils de protagonistes. Finalement, est-ce qu'il y a des profils particuliers entre les auteurs de faits, les victimes de faits ou les témoins de faits? Et puis les signaux d'alerte, finalement, vous en tant que parent, qu'est-ce que vous pouvez identifier, voir? Et puis vous, les élèves, qu'est-ce que vous pouvez aussi identifier, voir? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous pouvez échanger avec vos parents, échanger avec l'école? Et puis je terminerai sur quels sont les protocoles qui sont mis en place par l'Éducation nationale? Et puis ce que dit la loi? Puisqu'il y a deux choses qui sont importantes juste à savoir. Et puis, comme on termine toute intervention, je vous donnerai aussi des ressources. Voilà. Alors, je vais d'abord, pour vous montrer ce qu'est le harcèlement, j'ai fait le choix de prendre le lien d'une affiche que le collège Charles de Gaulle de FAMEC avait fait il y a 2 ans pour participer au prix non-harcèlement à l'école. Et en fait, ce qui est à voir dans cette affiche, donc je vais me lever, ce sera plus facile pour moi. Ce qui est à voir dans cette affiche, c'était la représentation de ces élèves qui en fait montrent qu'au-delà du temps, vous avez en rouge des événements de faits de harcèlement, donc menaces, moqueries, honte, dépression, insultes, peur, coups, et que tout ça s'alterne simplement avec les cours anglais, donc histoire, SVT, maths, etc. Ce que l'on voit dans leur représentation, c'est aussi que c'est quelque chose qui est insidieux, comme qui vient comme quelque chose à répéter quand on parle de tic-tac, etc. Ce temps du harcèlement qui est quelque chose de douloureux aussi pour les élèves. Et puis vous avez sur le fond de cette affiche en fait une personne un peu dans l'ombre que l'on peut imaginer isolée et surtout la tête abattue. Voilà, donc quelques éléments qui sont là pour montrer. Je vais vous passer, si le lien se passe bien, une vidéo d'un collège. Je terminerai l'intervention par la vidéo du collège d'ici, mais je vais vous passer déjà une vidéo en 2 minutes d'élèves d'un collège à Gondange. Je vais faire le lien. Et dans cette vidéo, vous verrez à chaque fois tout ce qu'ils disent, c'est noté en bas. c'est sous-titré, on va dire, mais sous-titré en français. Et voilà, l'idée, c'est de vous donner aussi la représentation de ces collégiens.
Harceleur, harcelé, pas toujours si simple d'y voir clair.
Regarde ce que nous sommes avec ce sac à rouler.
Gamin, tu fais pite.
C'était un jeu.
Un passe-temps.
Ouais, c'était un jeu de soir du matin, quoi.
Arrête, vous venez.
Depuis ce jour, Jacqueline va 3 fois par semaine chez le kiné pour des problèmes de dos. Et sans son bonnet, il a attrapé une otite.
Ouais, c'est vrai qu'on est bête de faire ça à quelqu'un qui n'a rien demandé.
Comment on pensait pas que ça allait aller aussi loin?
Ah, c'est parce que j'ai pas quitté le PowerPoint. Eh ben, je vais le quitter.
Ah, pas le, juste fermer le,
voilà. Non, mais je quitte, c'est pas un problème.
Là, c'est bon.
Voilà, allez, j'y vais.
Harceleur, harcelé, pas toujours si simple d'y voir clair.
Regarde ce que nous sommes avec ce sac à rouler.
Gamin, tu fais pite.
C'était un jeu.
Un passe-temps.
Ouais, c'était un jeu de soir du matin, quoi.
Arrête, vous venez.
Depuis ce jour, Jacqueline va 3 fois par semaine chez le kiné pour des problèmes de dos. Et sans son bonnet, il a attrapé une otite.
Ouais, c'est vrai qu'on est bête de faire ça à quelqu'un qui n'a rien demandé.
Comment on pensait pas que ça allait aller aussi loin?
Quelqu'un a la réponse?
Moi, madame.
Faut dire qu'on s'ennuie en classe et il casse l'ambiance.
Madame, il me balance des trucs.
Grave!
Aujourd'hui, Antonin et Marilyn ont baissé leur moyenne et ont renoncé à leur rêve trop compliqué.
Ouais, c'est vrai que des fois, les cours, ça saoule.
Mais j'ai compris qu'on était là pour nous et pour notre avenir, et pas pour les profs.
Salut, Ilou.
Qu'est-ce que ça, toi? Je veux te parler.
Je voulais me faire de nouvelles potes, mais elles aiment pas, et moi. De toute façon, je peux pas la saquer, elle est devenue grave louche.
Moi, je veux pas rentrer dans les histoires.
Depuis, Emma prend des tranquillisants et parle d'en finir avec sa vie.
C'est vrai que c'est bête et méchant de lâcher sa pote pour devenir populaire.
J'aurais pas dû la laisser seule.
Comme quoi, harceler, ce n'est jamais une solution.
Je voulais à travers cette vidéo vous montrer effectivement toute l'ambiguïté et la complexité de découvrir ce que veut dire harceler et finalement ce que recouvre ce terme. Alors, ça c'était mon... Hop, j'arrive là. Je commence d'abord par le harcèlement pour le définir et en disant que c'est une forme de violence et qu'on parlait de micro-violence avant. Une forme de violence, des violences qui peuvent être directes, indirectes, ou des violences que l'on va appeler cyberharcèlement. Je vais un petit peu les décliner. Et en fait, on verra que le harcèlement, quand je vais reprendre la définition après, c'est tous ces types de violences, mais qui sont répétées. C'est-à-dire qu'une violence pour elle-même qui n'arrive qu'une fois, c'est pas forcément du harcèlement. Par contre, quand on arrivera à les répétitions de ces événements-là, ça deviendra du harcèlement. On verra le contour un peu plus avant. Alors, dans les violences directes, bien sûr, ce sont les violences corporelles, donc des coups, blesser quelqu'un, aller contre sa volonté. Ce sont toutes les violences verbales aussi qui sont... qui peuvent être des propos discriminants ou des propos racistes, insulter, se moquer. C'est aussi des violences directes contre les biens. C'est par exemple endommager un vélo, c'est voler la trousse, c'est jeter les stylos, c'est casser des documents, c'est déchirer des cahiers, enfin voilà. C'est aussi des menaces, alors qui peuvent avoir lieu dans le collège, mais qui peuvent avoir lieu aussi sur le chemin de l'école. Et c'est aussi par exemple faire pression pour obtenir de l'argent. Alors je pense par exemple à une situation que j'ai eue en tant que référente harcèlement où j'ai eu une maman au téléphone qui me dit ma fille est harcelée, je ne m'en suis pas rendu compte, donc elle se culpabilisait. Je dis on a refait un peu l'histoire, c'est ce que je fais toujours quand j'ai les parents au téléphone pour savoir qu'est-ce qui a pu déclencher les choses. Et en fait la maman me dit la seule chose qui a changé chez ma fille c'est qu'elle ne mangeait jamais de bonbons et que finalement un jour elle m'a dit il faut que tu m'en achètes, j'en ai besoin. Et en fait c'était pas pour elle, c'était parce qu'elle était racketée. Voilà, vous voyez, c'est des choses insidieuses comme ça et quelquefois des petits points d'attention qu'il faut avoir même en tant que parent. Alors ensuite, ce sont aussi les violences à connotation sexuelle. C'est le voyeurisme dans les toilettes, même dans les, dans les espaces de sport. Voilà, ce sont aussi les baisers forcés, les gestes déplacés qu'on va retrouver chez les plus grands d'ailleurs. Et puis tout ce qui est autour des jeux dangereux, le principe des jeux dangereux étant les jeux de t'es cap ou t'es pas cap. Hein. Et là, pour le coup, nos jeunes adolescents font preuve de beaucoup d'inventivité, malheureusement. Ce sont des jeux de défis aussi, qui arrivent quelquefois, alors rarement, heureusement, mais quelquefois à des situations dramatiques avec des tentatives de suicide. Ensuite, vous avez toutes les violences indirectes et subtiles, enfin que moi je qualifie de subtiles. Ce sont par exemple des humiliations, hein, l'utilisation de surnoms dévalorisants. Vous avez tout ce qui est qui relève des attitudes, ce sont des gestes, des mimiques, par exemple un langage corporel qui serait que pour éloigner quelqu'un, on ne lui dit pas bonjour, mais par contre on va lever les yeux au ciel, histoire de se moquer de lui, mais sans parole. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Signe de désapprobation aussi, hein, voilà, le ton de la voix. Hein, saluer, alors soit ne pas saluer avec, de pas saluer, soit de saluer de façon très exagérée en termes de moquerie. Et puis vous avez aussi la propagation de rumeurs, donc ça, sur Internet, on en entend bien parler, hein, entre autres, mais ça peut être aussi hors Internet, faire dire des choses sur un tel. Et puis toutes les pratiques d'exclusion, de discrimination, exclure du groupe de travail, du groupe de sport, par exemple. Quand je m'adresse à une population de personnel enseignant, c'est vrai que je leur demande toujours de vérifier, quand ils constituent des groupes classes, quel est l'élève qui, justement, ne fait jamais partie d'un groupe. Voilà, celui qui est toujours exclu. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas prendre de raccourcis, hein. C'est pas parce que l'élève est exclu qu'il est harcelé, mais c'est un élève pour lequel il faut qu'on fasse, qu'on ait une attention particulière quand même. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Alors, ensuite, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, on en parle beaucoup. Le problème du cyberharcèlement, c'est qu'on va retrouver exactement les mêmes événements, moqueries, insultes, intimidation en ligne, les créations de pages, de profils, l'usurpation d'identité, etc. Mais le gros souci, et ça, voilà, vous le savez aussi bien que moi, c'est que c'est un état de sécurité H24, et que voilà, il n'y a pas du tout d'espace de liberté. Votre enfant qui rentre dans sa chambre, eh ben, il a encore son smartphone sous l'oreiller toute la nuit. Hein. Donc moi, je me dis, à quand parents et enfants décideront-ils à un moment donné de dire, avant d'aller se coucher, tout le monde met son portable éteint à la salle à manger et ne l'emmène pas dans l'espace nuit, point d'interrogation. Ça questionne nos responsabilités personnelles d'adultes, hein, mais ça questionne aussi notre exemplarité à donner à nos enfants. Voilà. Après, c'est chacun chez soi fait comme il peut, j'appelle pour le coup l'attention de vous, élèves. Voilà, le smartphone, il n'est pas indispensable la nuit, quoi. Vraiment pas. Voilà. Et que si jamais il y a une urgence, voilà, ou une catastrophe à apprendre, on peut l'apprendre après sa nuit et pas forcément avant sa nuit. Voilà. Et puis que quand on a quitté un ami ou une amie à 17h, on n'a pas besoin d'être reconnecté à 17h15. Sûrement que ça peut attendre quelques heures. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Ça paraît basique, mais c'est tellement important de vous le redire. Et je pense que vos parents, en plus, doivent vous harceler avec ça et vous le dire régulièrement. Mais du coup, j'en rajoute une petite couche. Voilà. Avec bienveillance, hein. Je vous le dis, avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Donc à partir de là, on va peut-être pouvoir définir maintenant ce qu'est le harcèlement. De quoi est-ce que l'on parle quand on parle de harcèlement ? Alors, on a deux définitions que l'on utilise assez régulièrement. La première, qui est celle de Dan Olaus, qui est un professeur de psychologie qui a travaillé sur le sujet, donc en Norvège. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, il travaillait sur les petits veaux, donc des animaux, qui en fait se donnaient des coups mutuellement. Et puis à un moment donné, effectivement, il y en a un qui était plus costaud que les autres et qui prenait l'ascendant. Et donc il s'est rendu compte, après il a travaillé sur les violences humaines, hein, et il s'est rendu compte effectivement que la définition du harcèlement pourrait être cela, des actes répétés, perpétrés dans le cadre d'une disproportion de force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est plus fort que l'autre ou qui se croit plus fort que l'autre, et puis par des individus agressifs, ou pas, parce que moi je me rends compte que quand j'ai des auteurs de faits de harcèlement, c'est pas forcément plus agressif que ça. Il pensait pouvoir jouer, mais quand même, avec une intention de nuire. Alors la notion d'intention de nuire, elle est toujours un petit peu complexe, et moi je suis pas très à l'aise avec, parce que simplement quand par exemple je fais mémoire d'une situation de fait de harcèlement où une maman d'un élève de moyenne section de maternelle me téléphone et me dit ma fille est harcelée. Quand on fait un petit peu le tour et qu'on fait mémoire de l'histoire, à un moment donné, je lui dis, mais il y a l'intention de nuire. Est-ce que vous pensez que son petit camarade, effectivement, il y a une intention de nuire? Donc, vous voyez que moi, je suis en difficulté par rapport à ça. Je ne pense pas qu'à 3 ans et demi, l'intentionnalité, elle puisse être caractérisée. Je suis même sûre qu'elle n'est pas forcément caractérisée ni en collège ni en lycée. Parce que simplement, quand on parle avec les jeunes qui sont auteurs de faits de harcèlement, on se rend compte que systématiquement, dans leur représentation, de toute façon, c'était un jeu. Et c'était pas forcément, il ne mesure pas du tout la gravité de l'acte qui peut être posé. Voilà. Ce qui fait qu'il y a une deuxième personne avec qui maintenant on se rapproche un peu plus de cette définition, parce qu'il y a aussi une formation d'accompagnement, c'est Anatole Picasse. C'est quelqu'un qui travaille, qui est en Finlande, et qui est aussi psychologue, et qui lui pose plutôt la dimension du harcèlement, pas tant comme quelque chose d'individuel que comme quelque chose de collectif, et où il précise qu'en fait, il y a une influence du groupe. Et par contre, lui, alors reparle effectivement de la disproportion hein, des forces, et qui dit que c'est plutôt lié au fait qu'il y a un groupe par rapport à un individu qui est victime de faits de harcèlement. Et il précise, lui, bien sûr, que l'intentionnalité n'est pas toujours avérée. Et on se rend compte, quand on pratique cette méthode Picasse et qu'on interroge des auteurs, effectivement, les premiers propos qu'ils vont avoir, c'est de nous dire, mais moi, j'étais simplement dans le jeu, ou alors je ne suis pas au courant. Voilà. Donc, du coup, la définition de Dan Oleus, c'est de rappeler qu'un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée, à long terme, à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser, le mettre en difficulté de la part d'un ou de plusieurs élèves. Il s'agit d'une situation intentionnellement agressive. Alors, si on veut résumer ce point-là, voilà, je fais une forme d'entonnoir. Une situation d'harcèlement, elle pourrait s'être identifiée par une répétition dans le temps, par une relation asymétrique et par une intention de nuire, avec le bémol que je vous ai donné par rapport à la qualification d'intention de nuire. Par contre, cela, c'est différent d'un conflit. Le conflit, en fait, on va avoir une relation entre deux personnes, mais qui ont le même pouvoir et qui vont pouvoir échanger. C'est-à-dire que ça reste au même niveau, mais on n'a pas quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Donc c'est bien deux choses différentes. Et ça, c'est aussi un travail que l'on fait en tant que référent, à mesurer, quand on a des parents au téléphone, si on est dans l'ordre du conflit ou dans l'ordre du harcèlement, effectivement. Toujours besoin de remesurer cela. Et c'est aussi un travail que je fais quand j'appelle les personnels de direction, puisque je vous parlerai de la procédure après. Mais je suis amenée aussi à appeler, moi, à joindre les personnels de direction pour effectivement faire la différence entre harcèlement, conflit, chamaillerie quelquefois, histoire entre filles, entre mecs, quelquefois en agence, ce genre d'attitude. Mais voilà, en tous les cas, ça mérite d'être pris en compte. À partir de maintenant, je vais peut-être moins utiliser le terme de harcèlement. Je le dis aussi aux parents, même si ça va réapparaître. Parce qu'à partir d'un moment, la qualification, pour moi, je ne vais pas dire qu'elle a plus de poids, puisque c'est qualifié. Ce qui m'importe, moi, après, c'est de prendre en charge un enfant qui ne va pas bien. C'est-à-dire que je vais passer de la notion de harcèlement, on va mettre un espèce de diagnostic, au fait qu'on a quelqu'un qui est en mal-être. Et qu'est-ce qu'on fait pour cet élève qui est en mal-être? Vous avez aussi noté que dans mes propos, je n'ai pas dit harceleur ou victime. J'ai dit auteur de faits de harcèlement, victime de faits de harcèlement. J'ai encore pas parlé des témoins, mais c'est la même chose. Témoin de faits de harcèlement, parce que je pense qu'il faut éviter de résumer un auteur de faits au fait qu'il soit à temps plein harceleur, par exemple. Pendant un temps de sa vie, ou de son temps là, il est auteur de faits, mais il est plein d'autres choses aussi. Et la victime, elle n'est pas que victime non plus. C'est d'ailleurs un champ que moi j'investis systématiquement. C'est-à-dire que quand j'en reparle avec les parents, c'est aussi un clignotant pour moi. C'est-à-dire que quand on me dit ma fille ou mon fils est harcelé et que j'essaie de repérer les éléments, je questionne toujours pour savoir si cet enfant il a une autre vie que celle du collège. C'est-à-dire que s'il est investi dans des associations sportives ou autres. Voilà. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, quelle est l'autre ressource ? Pour pouvoir montrer aussi à cet enfant qui a un temps au collège, dont il est victime, mais qui n'est pas la généralité de sa vie. Ça, je crois que c'est important qu'il puisse l'entendre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un harcèlement ? Je vous ai dit, à un moment donné, des forces qui ne sont plus ensemble. Il y a aussi autre chose qui est important, c'est le moment T. C'est-à-dire qu'il y a un moment T où, à T-1, la victime de fait de harcèlement aurait réagi en disant « Non, je ne veux pas que tu me voles mon goûter » ou « Non, je ne veux pas que tu m'agresses verbalement ». Après, il aurait dit aussi, mais à ce moment T-là, il ne l'a pas dit. Et donc, du coup, ça ouvre une porte à l'auteur de fait qui dit ben, « Puisqu'il n'a pas réagi une fois, il ne va pas réagir une deuxième fois, il ne va pas réagir une troisième fois ». Et c'est comme ça que l'engrenage se met en route. Alors voilà, le tenter. Ensuite, on a souvent sont des éléments de stigmatisation de petites caractéristiques. Un enfant victime de faits de harcèlement, voilà, ça peut, il peut être ciblé. Pourquoi ? Parce que il a changé de couleur de lunettes. Il est trop petit, il est trop grand, il est trop intelligent, il a trop de difficultés. Il a dit quelque chose de... Par exemple, je pense tout à l'heure à un surnom et je pense à une élève de seconde qui est devenue victime de faits de harcèlement parce que simplement, en cours d'espagnol, elle n'a pas utilisé le bon terme. Du coup, ça a suggéré, ça a levé une grosse crise de rire dans la classe parce qu'elle s'est trompée de mot. Mais en fait, ce mot-là, il est devenu son surnom. Et pour le coup, dans le couloir, on n'arrêtait pas de lui redonner ce surnom-là. Voilà, vous voyez, c'est des fois, ça part vraiment de broutilles. Mais voilà, c'est une différence. Ça peut être aussi l'identité de genre, ça peut être la tenue qui n'est pas adéquate parce que tu n'as pas les mêmes tennis que moi. Enfin, on part vraiment sur des choses quelquefois très, très subtiles qui nous dépassent. Enfin, moi qui me dépasse quelquefois. Mais c'est... Et puis, c'est aussi l'appartenance à un groupe. Particulier. Toi, tu fais du hand, moi, j'en fais pas, mais j'aime pas le hand, donc je t'aime pas. Voilà. C'est des choses vraiment... Alors, voilà une affiche que des élèves de CM1 ont fait pour le prix non-harcèlement, et voilà, qu'il faut peut-être un peu décoder pour reprendre les différents éléments et les différentes formes de harcèlement. Je la trouve assez bien faite. Alors, vous allez retrouver un petit jeu. Je le fais aussi quand je fais la formation auprès des chefs d'établissement ou des personnels. Donc vous allez retrouver dedans différents éléments. Le petit rébus en haut, je ne sais pas si vous avez deviné ce que ça veut dire. Hein. Voilà, moquerie. Vous avez un petit truc en travers là-haut. Raquette. Hein. Là-bas, insulte. Hein. Là, je ne sais pas si vous l'avez fait. Voilà, dans l'autre sens. Ensuite, là, il vous manque un bout. Voilà, menace, violence, en haut le puzzle, chantage. Ensuite, alors là c'est un peu plus compliqué. Comment ? Ouais, exactement, alors qu'est-ce que ça donne ? Vas-y. Ah bah oui, tu as commencé à parler, hein, c'est bon, vas-y. Alors après... Oui, alors on a un bon... Après, ouais. Oui, alors exclu... Voilà, super, donc c'est ça. Ici, on relie des lettres, hein, des chiffres, pardon. Donc normalement, on arrive à rumeur. Et puis là... Alors, je vous donne la solution, hein, parce que quand même, voilà, les solutions placées au bon endroit. Effectivement, menaces, rumeurs, et puis cyberharcèlement pour la vue. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser après ce que je vous ai dit, c'est finalement, est-ce qu'on a des profils ? Parce qu'on pourrait, ça serait bien plus simple quand même, qu'on ait des profils et qu'on pourrait presque stigmatiser. Eh bien non, il n'y a pas du tout de profil d'auteur de faits, de victime de faits ou de témoin de faits. Je me rapproche de Nicole Kathleen, qui est une pédopsychiatre qui intervient, pédopsychiatre sur le CHU de Poitiers, et qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui en fait redit que finalement les victimes, il n'y a pas de profil, tout le monde peut être victime, mais personne aussi peut ne pas l'être. Enfin, tout le monde peut ne pas l'être non plus. Mais simplement, il y a la petite différence qui fait que, hop, il y a quelque chose qui va se passer. La notion de non-réaction tentée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, la victime, par contre, en caractéristique, on va voir qu'elle s'isole peu à peu. Donc, pour nous, c'est un point d'attention. Pour les auteurs, alors ce que l'on va voir chez les auteurs, c'est effectivement une absence d'empathie. Alors, en sachant quand même que l'empathie, on l'acquiert, mais notre cerveau, il le met en place qu'à partir de 14-15 ans. Hein. Il ne le met pas en place avant, donc cette absence-là, elle est là. Voilà. Souvent, c'est quelqu'un qui a un fort charisme, qui va rendre populaire ce jeune homme ou cette jeune fille. Je dis jeune homme ou jeune fille parce que finalement, dans les auteurs de faits de harcèlement, c'est 50-50. Hein. Et puis surtout, Nicole Kathleen dit qu'il y a une certaine intelligence, entre guillemets, puisque cet auteur va savoir repérer les petits défauts chez l'autre sur lesquels je vais pouvoir finalement agir. Hein. Et puis les témoins, mais en fait, ils peuvent appartenir à l'une ou à l'autre des catégories. Ils sont saisis dans le sens où ils sont touchés par la situation. Et puis, c'est leur attitude qui va renforcer ou éteindre l'attitude des faits de l'auteur. Par contre, ils ont une posture qui n'est pas facile parce qu'ils peuvent être soit identifiés comme celui qui va balancer, donc il va être... Après, c'est lui qui va devenir la victime. Et puis, il y a ceux qui regardent et qui ne disent rien en se disant « tant que ça passe à côté de moi, ça ne me touche pas moi ». Voilà. Moi, je reste convaincue que c'est, je dis toujours le ventre mou, mais c'est le plus gros groupe, hein, et c'est à mon avis sur ce groupe-là qu'on doit travailler en tant qu'adulte. Voilà. Parce que ces témoins, on ne veut pas non plus qu'on les oublie, les témoins qui n'osent pas parler, ils peuvent aussi quitter votre domicile avec un mal de ventre le matin, en se disant « je sais quelque chose, je suis dans une confidentialité, mais je ne veux pas en parler parce que sinon c'est sur moi que ça va retomber ». Donc on va être sur cette logique-là aussi. Chez eux. Alors, le harcèlement, en fait, c'est une dynamique, et la dynamique, elle va être mise en œuvre dans le processus par ces trois éléments-là. Le silence de la victime, les réactions de l'auteur, puisque finalement, rien ne l'empêche, mais il va continuer, et puis les réactions des témoins, je vous ai donné quelques éléments. Le silence de la victime, quelquefois, et c'est un petit peu dramatique aussi à notre niveau, parce qu'on ne sait pas quoi faire et que la victime n'ose pas nous parler. Moi, j'ai des situations qui m'ont été révélées. Quand je demande aux parents, je demande toujours l'antériorité. Il y a des situations qui me sont révélées 5 ans après. Ça veut dire qu'on arrive en 4e, par exemple, et que les faits de harcèlement explosent. Et quand je demande quand est-ce que ça a commencé, la jeune fille ou le jeune homme a dit que ça a commencé en CM2, par exemple, ou en CM1 ou en CE1. Voilà, dire que souvent, il y a des histoires qui ont une antériorité. Ça veut dire que ce jeune homme ou cette jeune fille, il n'en a pas parlé pendant ce temps-là. Donc on imagine ce qui se passe et les dégâts qui peuvent être là. Hein, voilà. Alors, je suis aussi prudente. D'habitude, je le dis en début d'intervention, je le dis là maintenant. Je ne suis pas du tout à l'abri non plus que dans cette salle, il y ait des gens qui aient été victimes de harcèlement ou qui le soient. Donc je m'excuse d'avance si jamais il y a des propos qui peuvent être un petit peu difficiles à entendre. Voilà, donc silence, repli sur soi, le sentiment de honte aussi chez la victime, avec un sentiment de honte et de la loyauté qui est à positionner aussi. Si je dis à mes parents que je ne sais pas me défendre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je dis au prof que je ne sais pas me défendre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Voilà. Et puis il y a des réactions paradoxales aussi chez la victime. Au lieu d'aller chercher de l'aide, ils vont rester repliés sur eux-mêmes. Peur de l'intervention de l'adulte. L'idée aussi de se dire, mais si je parle, qu'est-ce qu'ils vont faire? De toute façon, peut-être qu'ils ne feront rien du tout. Donc voilà, c'est la double peine. Hein, voilà. Ensuite, chez l'auteur, je voulais évoquer, on est sur la surenchère, c'est-à-dire que si jamais rien n'arrête, ben on continue, quoi. Et si en plus je peux faire de spectacle auprès d'autres témoins, ben je continue. Voilà, donc on est sur ce point-là. Et puis dans les réactions des témoins, ben vous avez les supporters actifs qui vont soutenir le harceleur, hein. Et puis ceux qui sont plutôt passifs qui restent en arrière en se disant tant que ça passe pas par moi, c'est déjà ça de gagné. Voilà. Jean-Pierre Bellon, qui a été un des premiers à travailler sur le sujet, avec Éric de Barbieu, parle d'invisible visibilité. Alors ce terme-là, il peut paraître un petit peu étrange. Moi, je trouve qu'il est très significatif. Ce qu'il veut dire à travers la notion d'invisible visibilité, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent, des petites choses, mais que les jeunes sont capables de le faire hors notre présence. C'est-à-dire que les auteurs de faits, ils se débrouillent pour poser leurs actes sans que les adultes ne le voient. C'est des petites choses à des moments où il n'y a pas d'adultes. Voilà. Alors en l'occurrence, il y a des espaces particuliers, les sanitaires, les coins de cour, les couloirs, voilà. La classe aussi, hein, quand le prof tourne le dos, ça suffit quelquefois aussi. Voilà pour la dynamique du harcèlement. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, un petit peu plombé, on va parler des signaux d'alerte. Qui peuvent vous inviter, vous les parents, mais vous aussi les jeunes et les profs, quand vous voyez des choses dans vos classes, à effectivement faire le point avec l'équipe de l'établissement. Quand je mets coéducation et prise en compte des faits de harcèlement, pour moi la coéducation c'est le travail école-famille, en sachant que c'est pas à l'école de former les parents, loin de là, chacun son boulot. Par contre, on a à un moment donné une partie commune. C'est-à-dire que vous êtes parent de l'enfant qui, à un moment donné, est élève chez nous. Donc c'est sur ce temps d'élève-là qu'on a la même responsabilité et qu'on a une responsabilité partagée pour protéger votre enfant, vos enfants. Alors, voilà quelques signaux. Alors, un signal ne suffit pas à qualifier une situation de harcèlement, hein, on est bien clair, c'est pas parce qu'on a mal à la tête régulièrement qu'on est harcelé. Hein. Par contre, on peut peut-être croiser certains éléments pour aller voir s'il y a harcèlement ou pas. Hein. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments. Hein. Moi, je dis toujours que quand il y a des événements, un changement caractéristique, par exemple, de comportement, on se questionne sur le mal-être de l'enfant. C'est pas forcément une situation de harcèlement, mais c'est une situation de mal-être qui mérite d'être parlée. Donc, vous avez des éléments, susceptibilité, peur de l'école, le mal de ventre du matin, là, alors qu'avant, c'était un élève super enjoué pour aller à l'école, et puis tout d'un coup, allez, hop, c'est plus possible. Voilà. Sentiment de honte, des blessures, hein, de l'automutilation, quelquefois. Le fait de dire aussi, finalement, je ne vaux rien, par exemple, hein, à répétition. Voilà, dévalorisation de soi, la perte de confiance en soi, d'estime de soi, des choses qui sont répétées. L'élève qui s'isole, qui a des troubles de comportement, des réactions violentes. Un élève qui est excellent et tout d'un coup, il y a des chutes de résultats. Alors, il peut y avoir d'autres motifs, hein, mais il peut y avoir aussi un motif voilà, de mal-être à l'école, dont des faits de harcèlement. Voilà les quelques éléments que je souhaitais reprendre. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Si notre enfant est victime de faits de harcèlement, ce qui me semble important, c'est effectivement d'ouvrir la parole. Hein. Si on a une suspicion, c'est d'ouvrir la parole, de parler avec lui, sans jugement, d'identifier le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par l'enfant, d'accueillir ses émotions, parce que de toute façon, voilà, il y a des choses qui vont sortir, que ce soit une émotion de larmes ou le fait d'être complètement fermé, c'est aussi une émotion. Hein. Dialoguer avec lui pour connaître voilà, les faits, les éventuels auteurs, les témoins. Rarement les enfants les dénoncent d'ailleurs, mais voilà. Savoir que l'on peut porter plainte, je reviendrai sur le sujet après. Et au besoin, j'ai mis consulter un thérapeute, mais ça peut être aussi consulter un psychologue, le psy-IN par exemple du collège ou au CMPP. Enfin voilà. Quelquefois, il suffit simplement que ça soit un tiers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de loyauté. Hein. L'enfant, il n'ose pas vous révéler qu'il est victime de faits de harcèlement, par exemple. Par contre, d'aller le dire à un tiers, voilà. Ou alors, dans votre famille, identifier un relais particulier. Ça peut être un grand frère, ça peut être les grands-parents, ça peut être l'oncle, la tante, le parrain, la marraine, le coach de sport, voilà. C'est-à-dire identifier quelqu'un à qui votre enfant pourra parler. Ensuite, par rapport à l'école, on fait quoi ? Ben, par rapport à l'école, on ne laisse pas traîner les choses. On essaie de prendre rendez-vous avec la direction du collège, en sachant que le rendez-vous, vous ne l'aurez pas forcément à la minute. Mais voilà, qu'en tous les cas, il faut alerter. Ensuite, développer ensemble des stratégies de prise en charge, montrer à l'enfant qu'effectivement, on est deux à s'occuper de lui, l'école et les parents. Et puis éventuellement contacter le délégué de classe si besoin. Et puis si vous hésitez, n'hésitez pas à appeler le 3020, qui est le numéro national. Je vais vous expliquer le fonctionnement après. Par contre, ce qui est déconseillé de faire, c'est de régler vos comptes vous-même avec les parents de l'auteur. Ça, je pense que c'est important, sinon ça aggrave un petit peu la situation. Moi j'ai eu quelques événements comme ça où en fait les parents qui disaient « mon enfant est harcelé », c'est parce que le parent avait un conflit avec un autre parent dans le quartier et que ça se réglait à travers par enfant interposé dans le collège, quoi. Donc, voilà. Alors ensuite, si votre enfant est auteur, on va être exactement dans la même démarche. Différencier l'acte de la personne. Hein. C'est pas parce qu'il pose des actes qu'il n'est que harceleur. Comprendre le pourquoi de cette violence. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que lui-même a été victime de quelque chose? Poser des limites en nommant les conséquences. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Quelle est l'incidence de tes faits? Voilà. Poser une stratégie de règlement de situation. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire aujourd'hui pour arrêter? Et puis, au besoin, consulter. Parents d'auteurs, ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est prendre rendez-vous avec la direction du collège, même si ce n'est pas facile, parce qu'en tant qu'auteur, en tant que parent d'auteur, on se dit « qu'est-ce que j'ai raté ?» peut-être, mais on se dit la même chose quand on est parent de victime. Hein. Je pense à une maman là, qui récemment a contacté la référente de Moselle en disant... comme je dis pas le collège, comme je dis pas le collège ni le lycée, ça pose pas de souci. En disant, je suis en souci parce que mon fils, qui est en lycée, utilise les médias sociaux pour insulter ses copains de classe. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc il y a un contact qui a été pris et des conseils qui ont été donnés. Voilà. Donc au niveau de l'établissement, se rappeler aussi que le harcèlement est un délit hein, depuis la loi de 2014. Je vais revenir un tout petit peu dessus après. Vous êtes témoin, et bien pareil, en parler en tant que parent de témoin, hein, en parler pour trouver de l'aide et des solutions quand on a un enfant qui est témoin. Qu'est-ce que toi tu pourrais faire? Peut-être pas tout seul, donc je t'accompagne. On va en parler ensemble à l'école. Voilà. Et puis éventuellement, contacter aussi un délégué de parents d'élèves. L'objectif pour tout le monde, c'est de faire cesser l'effet de harcèlement et surtout de viser au bien-être de tous les élèves. Alors ça, c'est les trois fiches types. Quand vous vous connectez, vous avez les fiches. Ce que je vous ai dit sur les diapos juste précédentes, c'est simplement repiquer des fiches. C'est fait correctement. Alors, les protocoles de prise en compte. Dans les protocoles de prise en compte, le premier travail qui est fait, c'est au niveau des établissements. Ensuite, c'est le 30-20. Et puis, je vous donnerai quelques éléments sur l'émission des référentes du dispositif non harcèlement, qu'elles soient en département ou moi en tant qu'académie. En proximité. Donc ça, c'est des situations que nous, on ne voit pas en tant que référente. Hein. C'est traité comme toute situation d'élèves en difficulté, avec une difficulté particulière, quelle qu'elle soit, au niveau de l'établissement. Tous les chefs d'établissement ont, par le biais du site, en tous les cas, un protocole hein, qui leur explique comment prendre en charge une situation. Voilà, accueillir, ne pas accueillir les élèves ensemble, témoins et victimes, on ne met pas tout le monde dans le même bureau pour régler les comptes. On entend d'abord l'élève victime, on accueille ensuite les témoins, l'élève auteur, on reçoit les parents. Voilà, y a un protocole très, très précis et surtout on s'assure d'accompagner la situation. Puis peut-être, pour certaines situations, il y a aussi des mesures, ce qu'on appelle des sanctions disciplinaires. Voilà, en tant que CPE, c'est son champ, c'est pas le mien. Donc voilà, je laisse à chacun son rôle. Dans certaines situations, effectivement, la démarche, elle va s'accompagner peut-être de sanctions disciplinaires ou de punitions. Voilà, ça relève la sanction du chef d'établissement. La punition, ça relève de tous les personnels en termes de demande. Alors, éventuellement, si vous appelez le 30-20, c'est un numéro national, au bout de ce numéro vert, il y a des écoutants. L'éducation nationale a établi une convention avec l'association École des parents et des éducateurs d'Île-de-France, donc met à disposition des psychologues qui écoutent. Le parent, alors je ne vous cache pas qu'à 98%, ce sont les mamans qui appellent. Voilà. Alors les papas n'appellent pas systématiquement, un peu plus maintenant. Et alors, dans ma représentation, si je regarde à peu près les numéros quand ils m'arrivent, les papas, ils appellent plus facilement dans le primaire. Voilà. Et quelquefois, on a des jeunes eux-mêmes qui appellent. Alors, les appelants sont donc écoutés, vont pouvoir donner quelques éléments. Et à partir de là, si l'appelant lève l'anonymat, c'est-à-dire il accepte de dire qui il est, à ce moment-là, il y a une fiche qui est retransmise au référent du département concerné. Et puis, moi, j'ai systématiquement un double pour les quatre départements. Sur cette fiche, c'est une fiche très très sombre. Alors c'est contrôlé par la CNIL, hein, on est nommé par le recteur. Sur nos adresses personnelles professionnelles, c'est pas une boîte de service, hein, c'est sur sylvie.voltrage, etc. Et puis pour mes collègues, pareil. On reçoit une fiche recto très simple qui va nous donner quel est le type de fait de harcèlement. Est-ce que ce sont des violences verbales, physiques, morales, cyberharcèlement? Est-ce que ensuite on va nous donner l'antériorité des faits? On va nous donner le nom et le prénom du représentant légal, l'adresse et le numéro de téléphone. On va nous donner le nom et le prénom de l'élève concerné et on va nous donner le collège concerné. À partir de là, nous, on a les fiches. On va, dans un premier temps, dans le protocole, c'est clair, on doit rappeler d'abord la famille, c'est-à-dire lui demander, voilà, on a eu cet appel au 30-20, nous, on vous recontacte pour avoir des éléments, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on va faire mémoire pour savoir ce qui s'est passé, quand est-ce que les choses se sont déclenchées, voilà, quelles sont les démarches qui ont été faites, on va peut-être apporter des conseils aussi. Et après, dans la foulée, on va appeler directement le chef d'établissement. Alors moi, ça, c'est ma pratique, le supérieur hiérarchique. Hein, dans le primaire, ça va être le directeur d'école, où ça va être l'inspecteur de circonscription. Au niveau du collège, parce que là, au niveau collège, au niveau 6e, ça va être le principal. Si le principal n'est pas disponible, je demande l'adjoint. Si l'adjoint n'est pas disponible, je demande le CPE. Voilà, dans ma pratique, c'est comme ça que je fonctionne en tous les cas. Voilà. Et puis ensuite, on essaie de voir ce qui peut être fait, en sachant que quand le référent appelle l'établissement, on n'a pas une mission de contrôle. On a une mission de conseil technique. Dans 95% des cas, la situation est connue. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Donc on va redonner un petit coup de pouce pour voir ce qui pourrait être fait en plus, soit en relation individuelle, soit en action collective. Dans le cadre du 30-20, l'appelant, quelquefois, dit « moi, je ne veux pas lever l'anonymat ». C'est de sa liberté, hein. Ou alors dit que les éléments finalement qu'ils ont eu dans cette relation avec l'écoutant, ils ont suffisamment d'éléments pour se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est à peu près 45% des situations qui ne remontent pas au référent. 45% des situations, les personnes sont satisfaites de ce qu'ils ont comme éléments et vont pas plus loin. Voilà. Hein. Après, au niveau du rôle du référent, pour les référents, on reçoit les signalements, je vous l'ai dit, on les prend en charge. Alors, il faut savoir que les référents traitent des signalements qui arrivent par le 30-20, des appels directs, mais il y a aussi des parents qui écrivent directement à ce.recteur ou ce.dsn. Donc ça nous revient aussi. Il y a aussi des parents qui écrivent à la présidence de la République, voilà, des parents qui écrivent au ministre. Voilà. Et tout ça nous redescend, c'est nous qui traitons dans la foulée. Voilà. Et on va avoir la même démarche, on va contacter l'appelant, informer le chef d'établissement. Quand c'est la présidence de la République et le ministre, on a en plus un compte-rendu à faire. Voilà, classiquement. Et puis en plus, on a des statistiques à rendre pour le ministère. Voilà, des outils, des procédures, il y a des fiches que vous retrouvez en ligne, je vous en ai déjà parlé. Les mesures disciplinaires, des mesures judiciaires éventuellement pour les auteurs de faits. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Sur ce que fait l'école, l'école, elle va participer à la prévention, à la lutte, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, va aussi contribuer au fait d'identifier les signes d'alerte et de mal-être, enfin, de signaux de mal-être des élèves, des élèves repérés, puis renforcer les actions de développement des compétences psychosociales des élèves. Dans les établissements, petit à petit, est inscrit ce qu'on appelle un plan de prévention dans le cadre du climat scolaire, plan de prévention et de lutte contre le harcèlement. Donc là, il y a tout un schéma, les chefs d'établissement l'ont bien en tête. Le climat scolaire, ça reprend plusieurs points, dont celui du harcèlement, pas seulement, mais des difficultés particulières et des violences. Voilà. L'idée aussi dans les établissements, c'est bien sûr de mobiliser les élèves. Il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des instances où on en parle. Alors les CESC, tout à l'heure vous l'avez évoqué, en lycée le conseil à la vie lycéenne, en collège le conseil à la vie collégienne. Vous avez la promotion d'outils pédagogiques, bien sûr l'utilisation et l'organisation du prix Mobilisons-nous contre le harcèlement à l'école. Qui a eu lieu pour la cinquième fois cette année, qui est aussi un travail collectif que les élèves font et construisent, avec des amplitudes complètement différentes dans les établissements. La formation d'ambassadeurs lycéens, donc dans mes missions, j'ai aussi, avec le délégué académique à la vie lycéenne, charge de former des ambassadeurs lycéens, c'est-à-dire que ce sont des lycéens qui ont une formation pour pouvoir ensuite sensibiliser les collégiens et les écoles de leur environnement. Voilà. Et puis, moi, par ailleurs, je valorise aussi les initiatives particulières, notamment au niveau du ministère, quand certaines choses sont faites. Je pense à la médiation entre pairs, par exemple, mais je peux penser aussi à des parcours qui sont faits de la 6e jusqu'à la 3e, par exemple, et où, par exemple, des élèves de 6e font la promotion. Il n'y a pas d'ambassadeur collégien, mais je pense à un établissement lorrain où les collégiens m'ont dit « Mais pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur collégien ?» Je dis « Ben écoutez... mettez-vous en route, faites quelque chose. » Donc, ils ont fait ambassadeur collégien. Ils ont fait le tour des écoles primaires près de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont vu 150 élèves de CM2 en disant « L'année prochaine, vous êtes avec nous au collège. Donc, on va vous parler de notre démarche, nous, de lutte contre le harcèlement. » Voilà, en fait, ils ont fait. Et donc, cette action-là, qui a été bien construite et tout, moi, j'en ai fait la promotion au niveau du ministère. J'attends qu'on me le valide pour que ça soit sur un site et que ça soit entendu et vu un peu plus loin que juste une échelle Lorraine. Mobiliser les personnels, donc effectivement c'est une sensibilisation qui est faite, de plus en plus les établissements en parlent. Moi j'interviens aussi dans le cadre de la formation initiale et continue des personnels, hein, sur le sujet dans le cadre du plan académique de formation. On a la même chose et puis on a aussi sensibilisé les parents, donc c'est un peu ce que l'on fait ce soir. Ce que dit la loi ? La loi, il y a deux articles, deux choses qu'on doit savoir, il me semble un peu important. C'est d'abord que le harcèlement, il est identifié comme un délit. Donc c'est la loi de 2014. Et là, on ne parle pas que du harcèlement entre élèves, on parle du harcèlement entre adultes. Voilà, on en entend assez parler actuellement. Mais simplement, la question a été posée, est-ce que cet article vaut aussi pour le harcèlement entre élèves ? Alors oui, il vaut aussi pour le harcèlement entre élèves. Un point important qui me semble vous donner, c'est que quand vous voulez porter plainte à la police ou à la gendarmerie, il est arrivé, alors peut-être de moins en moins, mais il est arrivé que le policier ou le gendarme ne veuille pas prendre le dépôt de plainte. Dise, on fait juste une main courante ou alors carrément on prend rien. En fait, la loi, elle vous autorise, elle autorise le parent à, si jamais il y a un refus de prise de plainte, à écrire directement au procureur de la République. Alors, c'est un petit élément qu'il faut savoir. Mais voilà. Après, vous avez la responsabilité pénale du mineur. Là, c'est quelque chose qui concerne l'auteur de faits de harcèlement. Voilà. Il faut savoir qu'un mineur, à partir de 10 ans et jusqu'à sa majorité, s'il est auteur de faits et qu'il y a une plainte qui est posée, eh bien, il peut faire l'objet d'un suivi éducatif par la protection judiciaire et de la jeunesse, hein, sur décision du juge des enfants. En tant qu'auteur, c'est un délit, donc le procureur peut effectivement à un moment donné dire on travaille avec les parents et puis on accompagne ce jeune. Alors avec des degrés, s'il y a des degrés de gravité, évidemment, hein, ça va être le juge qui va l'apprécier, mais sachez que ça existe. Voilà, alors pour les ressources, et j'en terminerai avec ces éléments-là. Vous avez pléthore de ressources, notamment sur le site internet Non Harcèlement, hein, que si vous tapez Non Harcèlement, vous allez retrouver plein de choses que je vous ai dites aujourd'hui. Vous avez aussi sur Eduscol Éducation quelque chose autour de l'internet responsable. Et puis le collègue qui se cache derrière son ordinateur, il va descendre pour venir faire pas. Si, il va venir pour en parler, pour parler deux, trois petites choses après, parce que je pense que c'est important. Voilà, donc c'est pour ça que je vais lui ouvrir la parole. Et puis, vous avez des guides qui existent. Hein. Alors, certains qui datent un petit peu, mais en même temps, les éléments qui sont dedans sont toujours d'actualité. Il y a un guide, entre autres, intéressant, et je le dis pour les professionnels, mais les parents peuvent tout à fait aussi aller le télécharger et voir ce qu'il y a dedans. C'est le guide des jeux dangereux. Hein. Notamment, il y a pas mal d'outils aussi pour travailler en collectif sur le sujet avec les élèves. Je vous remets quelques numéros de téléphone, notamment la plateforme le 3020, la référente départementale 54, donc elle a un numéro direct 03 83 75 72 40. Voilà. Elle peut être jointe. Moi, j'ai un double numéro, c'est-à-dire que j'ai mon numéro professionnel, mais j'ai aussi une double ligne. Donc, si jamais vous appelez ce numéro-là, le 0808-800-209, ben, vous aurez le répondeur qui vous dit que vous me laissez votre message, le département duquel vous appelez, etc. Et puis, moi, je vous rappellerai ou je vous renverrai vers le référent du département concerné, en sachant que il y a une boîte vocale qui enregistre. Donc moi, je peux transférer l'enregistrement directement à ma collègue. Voilà. Alors ensuite, un élément qui, moi, me semble important. Voilà, on en fait, mais pas assez. Travailler sur les compétences psychosociales, donc ça relève de tout adulte par rapport à des jeunes. Et je crois qu'en plus, ces compétences-là sont des compétences qu'on n'a pas fini d'acquérir de toute notre vie. Hein. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, une pensée critique, savoir communiquer efficacement. Communiquer efficacement, c'est pouvoir dire non quand on est un peu agressé, par exemple. Être habile dans les relations interpersonnelles, c'est pas utiliser l'humour à tort et à travers parce qu'il peut y avoir un retour de bâton, par exemple. Enfin, je fais des raccourcis. Hein. Avoir conscience de soi et confiance en soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Voilà, c'est des choses qu'on apprend tout au long de la vie. Et qui semble important peut-être de se dire que ce sont des socles positifs sur lesquels, alors je sais que les enseignants travaillent beaucoup là-dessus en cours, hein, valorisent des compétences, et ça fait partie de ces compétences psychosociales qui nous permettent de construire et de faire des enfants, des futurs adultes bien dans leurs chaussures, futurs citoyens. En conclusion, je reviens simplement sur quelques valeurs essentielles qui sont les valeurs de la République, qui avaient été inscrites dans une circulaire de 2013 sur le fait de dire qu'assurer la sécurité et la sérénité de tous les élèves et de tous les personnels dans les écoles et les établissements, c'est transmettre et faire respecter des valeurs essentielles que sont la solidarité, la fraternité, la dignité de tous, le dialogue, l'écoute et le respect mutuel. Voilà, pour moi, ce ne sont pas de vains mots, parce qu'en fait, ce sont des conduites à tenir et on a tous envie, effectivement, peut-être de vivre sur ces différents axes. Alors, je vous remets cette dernière affiche, puisque je vous l'avais mise en début d'intervention, en vous remerciant pour votre écoute et en m'excusant pour ma voix qui file de plus en plus, mais on va s'en sortir. Et puis, comme promis, je vais vous passer la vidéo du collège. Alors, j'ai compris tout à l'heure qu'il fallait que je ferme ça. Hop. Voilà. Elle passe là ? Oui.
Une personne sur 10 est harcelée à l'école.
Voilà, vous voyez que, un, il n'y a pas beaucoup de paroles, mais il y a beaucoup d'éléments que l'on peut, relire. En l'occurrence, l'isolement, le fait que ça soit répétitif, hein, jour 1, jour 2, jour 3. Il y avait une technique de communication qui était de ne pas montrer la tête des auteurs de faits. Hein, on ne les voit pas, c'était une vraie démarche, voilà, puisqu'en fait c'est aussi quelque chose de très, très insidieux. Et puis on voit aussi le fait qu'à un moment donné, l'élève en question qui est isolé, il n'ose même plus rentrer dans sa classe. Quoi. Voilà, hein, voilà, tous ces événements-là sont donnés, enfin, quelques points. Et puis les coups, vous avez vu les coups, vous avez vu le fait de voler le portable, enfin voilà, des éléments. Et c'était une représentation, donc là c'était un des élèves de 4e, hein, 3e qui ont fait ce travail-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Ah, par contre, je passe la parole à... non, on ne va pas se défiler comme ça. Hein. Parce qu'en fait, il y a des activités, des actions qui se passent, notamment par certaines associations. Et là, en l'occurrence, c'est donc le permanent d'une association qui s'appelle Franca et qui va vous parler d'une action qui va se mettre en place. Mais il est aussi parent d'élèves. Donc, voilà, c'est un de vos co...
Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Adrien Zerbim, je connais un petit peu
des gens parmi vous peut-être. Donc en fait, s'il y a des parents d'élèves dans la salle ou des enseignants, je suis chargé de mission en fait au Francas de Meurthe-et-Moselle, à la Fédération des Francas, sur des questions d'éducation aux médias et notamment la radio. Voilà. Donc si vos enfants ont fait de la radio, eh ben coucou, c'est moi, peut-être. Voilà. J'en retrouve beaucoup qui viennent, qui arrivent donc dans les collèges aux alentours, les écoles, Jeuf, Valeroy, Tucnieux et Briey. Et parce que je suis assez impliqué sur les questions d'éducation aux médias et pas mal du coup en lien avec les réseaux sociaux, on m'a sollicité pour faire partie d'un projet expérimental en Meurthe-et-Moselle et qui est nouveau, qui s'appelle les Promeneurs du Net. Alors les Promeneurs du Net, c'est une démarche qui a démarré en Suède il y a quelques années, qui s'est développée sur tout le territoire et qui consiste à mettre en place une présence éducative sur Internet, donc qui dépasse en fait les lieux de vie des enfants, donc l'école. Et puis la maison, avec les copains à l'extérieur, le centre de loisirs, etc. Voilà. Donc je suis la personne promeneur du net sur le territoire de Briey à partir d'aujourd'hui, puisque le projet démarre officiellement vendredi. C'est un projet qui émane de la CAF de Meurthe-et-Moselle, qui est financé par la CAF de Meurthe-et-Moselle. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc dans mon cas, c'est Snapchat, donc là où les jeunes vont. Donc voilà, si vous tapez Radio Franca par exemple sur Snapchat, vous tombez sur moi. Si vous tapez Radio Franca sur Internet, sur Facebook, vous tombez sur moi, sur Adrien Zerbib. Voilà. Alors l'idée, c'est de continuer la relation en fait qu'on peut avoir par exemple avec les élèves ou les gamins à l'école ou au collège ou au lycée en ligne. Alors je vais reprendre les textes que j'ai, ce sera peut-être plus simple. On n'a pas vraiment de recul en fait sur le projet puisque ça n'a pas encore démarré. Donc, faut savoir que près de 80% des 11-17 ans en fait sont présents sur Internet, donc par Facebook, par YouTube. Voilà, ils ont des chaînes aussi. Ils vont voir leurs copains ou leurs copines alimenter leur chaîne et sur Snapchat. 48% d'entre eux se connectent sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Donc en fait, la discussion en fait elle continue au-delà de leur territoire de vie, hein, si je puis dire, de l'école physique. Mais sans forcément être accompagné et cadré. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça se fait comme ça, on y va, on discute, on échange, et aussi on se harcèle. Ça arrive souvent. Donc voilà. Donc l'idée de la présence sur Internet, c'est de sensibiliser aux risques et d'éviter en fait d'éviter toutes les dérives qui peuvent exister. Voilà, dans ces réseaux. Voilà, donc c'est un petit peu la mise en place d'une action éducative sur la toile. Donc si vous me voyez par exemple parler avec vos enfants sur Internet, alors l'idée c'est que en fait toutes les structures qui sont en lien avec les enfants ou les jeunes, les structures scolaires ou non scolaires, on est souvent en fait en lien avec les réseaux sociaux avec les jeunes mais c'est pas officiel. Ça se fait pas sur le temps de travail, ça se fait à la maison, n'importe quelle heure. C'est un peu fait n'importe comment. Et l'idée, c'est de cadrer ça. Moi, je suis un professionnel de l'animation. Ça veut dire que c'est carré. L'idée, c'est pas forcément d'apporter une. J'ai pas toutes les réponses. C'est de travailler avec le réseau qu'on a sur les territoires, le réseau associatif, le réseau éducatif, l'école, la cité scolaire. Ça peut être par exemple un gamin qui est harcelé et moi il vient me le dire par exemple, ça peut être ça, c'est tisser une relation de confiance. Ça peut être un jeune qui a un projet, on a un groupe de jeunes et on a un projet, on a envie de faire quelque chose, comment on peut faire. Voilà, ça peut être des tas de choses et après nous on redirige. Moi par exemple je vais rediriger en fonction de mes connaissances, les connaissances que j'ai des acteurs de terrain. Voilà.
Voilà, l'objectif, c'est qu'effectivement, on soit maximum de personnes pour pouvoir accompagner et assurer une vigilance pour les élèves. Voilà. C'est vraiment ce souci-là, en sachant que l'école a aussi sa part, notamment, donc on a effectivement toute cette part associative qui est importante. Donc, soyez rassurés aussi, les associations avec qui on travaille, il y a une convention éducation nationale avec les associations. Hein. Donc voilà, c'est pas, il faut qu'il y ait un agrément. En l'occurrence, là, il y a un agrément avec Franca, donc il n'y a pas de souci. Et puis donc aussi, il y a aussi la part de l'école qui, elle, fait aussi des formations et des accompagnements dans le cadre de l'éducation aux médias. Hein, voilà. Après, voilà, les enseignants savent aussi comment mobiliser ces actions-là à l'interne. Voilà. Je m'arrête là parce que je...
Merci Madame Voltrager. Je voudrais juste conclure en expliquant que si on vous a convié, vous, parents d'élèves de 6e, c'est pour renforcer le partenariat entre nous, la coéducation évidemment, comme l'expliquait Madame Voltrager, qui est très très importante, et aussi pouvoir suivre la cohorte d'élèves de la 6e jusqu'à la 3e, voire au-delà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de commencer maintenant également. Voilà, c'était juste pour réexpliquer les choses. J'aurais aimé savoir si vous aviez des questions par rapport à ce qui a été évoqué et si vous aviez des remarques éventuelles ou quelque chose à dire tout simplement. Une question ? Les élèves.
Est-ce qu'au niveau des élèves, est-ce que j'ai été assez claire ? Est-ce que ce que je vous ai dit, ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui, comme ça ? Oui ? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ? Pas trop ? On voit que c'est un sujet qui est compliqué. Hein. Il est compliqué pour nous en tant qu'adultes qui avons à le prendre en compte. Hein. Même quand on est référence, pas simple de le prendre en compte, de discerner quand il y a harcèlement ou pas harcèlement. C'est pas simple non plus d'accompagner hein, des parents qui sont touchés quand il y a un événement comme ça. Même s'ils mettent le mot harcèlement et que ça n'en est pas, pour moi ce qui est important, c'est qu'on a des enfants qui sont en souffrance et des parents qui sont un peu démunis. Donc pour moi, c'est ça, cette priorité. Enfin, je suis assez claire là-dessus. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de me dire que c'est du harcèlement ou que c'est du conflit. C'est un enfant en mal-être et un parent qui ne sait pas comment faire. Ou qui est très inquiet, ce qui est juste normal. Voilà, le moins... Oui, un... Alors, pour ça, j'ai pas assez de recul parce qu'on en fait ça depuis 2011. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, des études, par exemple canadiennes, montrent que effectivement, 9% des élèves harcelés ont été harceleurs. Après, voilà. Le Canada va même bien plus loin, et ça, moi, ça me fait très peur. Mais voilà, c'est de dire qu'ils ont fait des études sur une projection sur 20 ans, en remarquant que les auteurs de faits de harcèlement au niveau adolescent, sont devenus des délinquants, enfin pour une, pas une grande partie, mais en quelques-uns en tous les cas, sont devenus délinquants à l'âge de 20-25 ans. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut freiner, quoi. Voilà. Mais nous, on n'a pas du tout ce regard-là, enfin, on n'a pas de vue, en fait, on n'a pas la vue du tout. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri qu'effectivement, un élève qui a été victime devienne auteur. Et inversement, hein, qu'un auteur soit à un moment donné stigmatisé et devienne une victime potentielle d'un groupe qui se dit « mais moi, j'ai besoin de défendre ma copine ». Voilà. Mais on n'a pas du tout de données, pas de chiffres. Et en plus, on ne peut même pas les croiser parce que les situations qu'on a traitées, on ne les a pas revues, enfin, de mémoire, sur les 5 ans, là. On n'a pas revu de situation dans un autre camp, quoi. Hein. En sachant que moi, au niveau académique et départemental, enfin, ce qui nous arrive à notre niveau, voilà, on n'est pas sur beaucoup de situations. Hein, on est sur, je vais dire, les chiffres n'apparaîtront pas. J'aime pas donner de chiffres, mais entre 140 situations par an, de la primaire, enfin, du maternel jusqu'à la classe terminale, voilà, par rapport à 400 000 élèves, c'est rien du tout. hein, qui nous arrivent à notre niveau. Hein. Maintenant, les situations, elles sont déminées au collège. Hein. Elles sont déminées sur le terrain, en école, en établissement. Voilà. Hein. Alors, ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on avait plutôt du collège. Vraiment, voilà, c'était à 50, presque 60% collège. On voit maintenant, et c'était surtout du second degré, maintenant on voit monter des situations premier degré. Et on a un peu plus de premier degré. Alors, par contre, à dire si c'est des classes d'âge qui sont plus touchées ou moins touchées, moi je pense que c'est fortement biaisé par les médias qui font que maintenant on sait qu'on peut signaler. Donc effectivement, on signale plus tôt. Voilà. Hein. Maintenant, voilà, pour le coup, c'est à peu près ça. Hein. Mais c'est sûr que le gros, quand même, voilà, premier degré, on voit monter des situations. Pour le moment, je pense qu'on reste quand même encore le niveau collège qui serait peut-être le plus impacté. Et puis le premier degré qui monte à peu près équivalence. Sur le second, sur le lycée, en fait, on a peu de situations, très très peu de situations sur le lycée. Hein, voilà. Peut-être ça ne se dit pas. Et puis alors, paradoxalement, moi, ce qui m'arrive, j'ai aucune situation de cyberharcèlement qui arrive au niveau, quand je regarde les statistiques départementales et académiques, qui nous arrive à nous référents. En fait, on n'a quasiment pas de demande autour du cyberharcèlement. Alors, comment on l'interprète ? Est-ce que c'est traité au niveau des établissements et des, voilà, c'est-à-dire que nous, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Nous, ce qui nous arrive, c'est plutôt effectivement des situations gangrénées de violences physiques et de violences verbales, voilà, et sexistes. Alors ça commence à monter aussi. Voilà. Comment ça ? Oui, c'est ça. Non. Non, c'est pas comptabilisé parce qu'en fait, ça fait partie des situations comme toutes les autres qui sont traitées et qui sont traitées dans le cadre des commissions éducatives, des cellules de veille, pardon, ou des GPDS, où effectivement, quand il y a une situation d'un élève en difficulté, quelle que soit la difficulté, alors ça peut toucher l'absentéisme, ça peut toucher le harcèlement, ça peut toucher un élève qui a telle ou telle difficulté. Tout ça, ça remonte pas. Ce qu'on a comme remontée, qu'on peut avoir d'établissement, c'est lors de statistiques de personnel particulier, c'est-à-dire les infirmières qui font remonter des statistiques et puis les assistants sociaux qui font remonter des statistiques. Voilà.
Alors, par trimestre, je renseigne une enquête au sein de l'établissement où je cible les sanctions en fait, qui ont été posées. Du coup, les sanctions, je dois mettre le motif. Le motif, donc violence, quel type de violence. Voilà. Non, il n'y a pas de...
C'est une entrée sanction.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est uniquement les sanctions.
Il y a des tas de situations qui sont réglées sans qu'elles se soient sanctionnées, sans qu'elles aient été sanctionnées par une sanction, par une punition. Hein, voilà. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'elles ont été prises assez tôt.
D'autres questions ? Bien. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment d'être venu. À toutes et à tous, merci beaucoup, Madame Voltragé. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous souhaitez me voir pour prendre rendez-vous, il n'y a aucun problème, je suis ici. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, au revoir.
Merci à vous pour votre attention. Et puis un petit mot, parce que j'ai commencé par un petit mot pour les élèves. Donc je vais continuer et terminer par un petit mot pour vous. Parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là non plus. Et pour vous encourager, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas d'en parler à un adulte référent, que ce soit vos parents ou que ce soit le référent, un référent de l'établissement. D'accord ? Voilà, il ne faut pas laisser traîner ce genre de situation. Voilà, bon retour à vous.